Comment s'appuyer sur Dieu, puisqu'on ne le voit pas, puisqu'on ne peut pas le sentir? Simplement en lui disant, tu le dis, je le crois. Tu me le déclares, je l'accepte. S'appuyer, c'est faire confiance à ce que Dieu ou quelqu'un dit. Tout ce que les gens disent ne sont pas des paroles d'évangile, attention. Ce que Dieu dit est parole d'évangile. On peut lui faire confiance. Alors je lis avec vous Évangile de Jean, chapitre 21, verset 1er. La scène se passe quelques jours après Pâques. Évangile de Jean, vous écoutez ou vous suivez la lecture avec votre Bible, mais vous avez constaté que pour nous, la lecture de la Bible est importante. Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Tout ce que nous savons sur Dieu nous vient du Christ et de l'Écriture. Nous ne savons rien sur Dieu. Comment est-il? Que fait-il? Que pense-t-il? Est-il aimable? Repoussant? Violent? Tout nous est révélé par la parole de Dieu. Eh bien, le récit de ce dimanche ensoleillé, c'est Jean 21, verset 1er, je fais la lecture. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, le jumeau, c'est ce que veut dire le mot, le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Eh bien, c'est énergique, c'est sympathique. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ça devait être le matin très tôt. Puis il y avait une centaine de mètres quand même. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non !» C'est un peu sec quand même, non ?« Non !» Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, mais ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est l'apôtre Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, mais en fait, quand on connaît bien l'histoire, de ce temps-là, il y avait toujours une ceinture pour aller pêcher et un vêtement de pêche, mais il y avait toujours un vêtement quand même en dessous. Mais on disait, quand on enlevait le vêtement de pêche, on n'avait plus de vêtements. Bon, on ne pensait pas qu'il était nu. Il se jeta dans la mer, Pierre. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, ça fait à peu près 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur avait préparé le petit déjeuner. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. C'est énorme. et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Voici, dit le texte, de quelle manière il se montra. Il n'est pas dit, voici de quelle manière il a donné du poisson. Voici de quelle manière il a donné du pain. De quelle manière il a dirigé la pêche miraculeuse. Le plus important pour les disciples, c'est que Jésus se montre. Quel est le plus important pour vous ? Que vous ayez du poisson à manger toute la semaine ou que Jésus se montre ? Le plus important, ce n'est pas ce que Jésus nous donne, c'est le plus important, c'est Jésus qui se donne à nous, qui se montre, qui nous dit « Je suis présent avec vous dans tout ce que vous vivez sur la terre et sur la mer. » « Je vais pêcher, dit l'apôtre Pierre. » Toujours aussi enthousiaste, ce Pierre. Toujours aussi dynamique. Jésus est ressuscité, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on a du mal à comprendre l'événement. Et puis voilà que ces apôtres retournent à leur premier métier, pêcheurs sur le lac de Tibériade. Mais ce jour-là, ils ne savaient pas qu'ils auraient une rencontre avec le Christ. Un imprévu, une rencontre dont ils ne se doutaient pas. Un jour, dans mes 18 ans, je suis allé dans une église et je ne savais pas que ce jour-là, j'allais rencontrer le Seigneur qui allait m'appeler à son salut et à être pasteur. Ça se passait normalement, c'était au mois de septembre, il ne faisait pas très beau, je me souviens. Et puis là, il y avait quelques jeunes, mais le Seigneur nous attend un jour de notre vie pour nous parler. Le prophète dit dans la Bible, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Ça ne veut pas dire « Prépare-toi pour ton dernier jour. » Parce que rencontrer Dieu, ce n'est pas que le dernier jour. Ça veut dire « Dans ta vie, il va y avoir un jour où tu vas le rencontrer et il va changer ta vie. Prépare-toi. » Les apôtres, donc, partent à la pêche. Mais pour rencontrer le Christ, ils vont vivre quelque chose qu'ils n'avaient pas encore prévu, une difficulté. Ils n'ont pas pris de poisson. Pourtant, la plupart de ces 7 hommes, ce sont des pêcheurs dans l'âme. Ils savent jeter le filet, ils savent tirer le poisson. Ce sont des gens qui sont pleins de savoir-faire, de métier. Ils ont du métier. Ce sont des pêcheurs dans l'âme de génération en génération. Ils n'ont rien pris, malgré toute une nuit, leur courage, leur force, leur capacité. Ils ont fait l'expérience de la pauvreté. Je crois pouvoir vous dire, mes amis, à ce niveau de la prédication, que l'expérience de nos limites nous prépare à la rencontre avec le Christ. Quand on connaît sa pauvreté, les limites de sa vie, les bornes de sa vie, la fragilité de sa vie, on écoute davantage la parole de celui qui dit « Je vous ressusciterai au dernier jour ». Quand on est dans les biens, quand on croit avoir une bonne conscience, je dis bien quand on croit avoir, on a parfois une autosuffisance et on dit « mais on ne manque de rien ». Je me souviens avoir été proposé la Bible dans des maisons en Normandie et des gens me disaient souvent « mais on manque de rien, on n'a pas besoin de ça ». Voulant dire « qu'est-ce que ça va nous apporter de plus ? On a déjà tout ce qu'on veut, on peut tout acheter à l'époque ». Le jeune homme riche que Jésus rencontre sur le chemin et qui disait « Que me manque-t-il encore ?» Est-ce qu'il peut manquer encore quelque chose? Une suffisance qui nous ferme au plus important de la vie, car l'or et l'argent ne peuvent être comparés à un gramme de l'amour de Dieu qui nous sauve. Alors, ils vont faire l'expérience du manque, l'expérience que la vie a des limites, que leur savoir-faire n'est pas suffisant, qu'on peut arriver à un jour où il n'y a plus rien, plus de santé, plus d'amis, plus de relations, plus rien pour construire la vie. Et Jésus, là, alors qu'ils sont découragés, déçus, malheureux, Jésus sur le rivage, sur la plage, le matin, de bonne heure, leur cri, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il ne leur dit pas « Qui êtes-vous » Il les connaît. Hein. Il ne leur dit pas « Quel est votre nom ?»« N'avez-vous rien à manger ?» On a l'impression que la réponse, Jésus la donne déjà. Comme s'il leur disait « Vous n'avez rien ?» Vous n'avez rien à manger ? Le Christ les oblige à reconnaître leurs besoins et leurs échecs. On a besoin de connaître ses péchés pour se jeter dans les bras de Jésus. Si quelqu'un dit « Moi, je n'ai jamais commis une seule faute, je n'ai pas besoin du pardon de Dieu », il ne va pas s'accrocher à la tunique de Jésus. Le Christ, là, les oblige à rentrer en eux-mêmes. Ils n'ont rien dans la barque. Il les oblige à réaliser que leur situation professionnelle, leur expérience de la vie, tout ce qu'ils ont bien acquis dans l'existence, ce n'est pas l'essentiel de la vie. L'éducation, l'instruction, la richesse, la maison, le frigidaire et le vélo, ce n'est pas l'essentiel de la vie. N'avez-vous rien à manger ? Jetez votre filet du côté droit de la barque. Ce n'est pas une parole miraculeuse. Ce n'est pas une parole magique. Jetez votre filet du côté droit, vous verrez. Mais les disciples ont dû dire, mais enfin, on l'a déjà fait. Le filet du pêcheur s'appelle l'épervier. Ils savent le lancer, l'épervier. À droite, à gauche, ils ont dû le faire toute la nuit. Et ils n'ont rien ramassé. Mais la beauté de cette histoire, c'est que dans cette parole de Jésus, il y a une promesse. Vous trouverez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse que Jésus fait aux apôtres. Vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Il nous donne la promesse, il signe, la Bible dit même, il jure que tout ce qu'il promet s'accomplira. Jetez votre filet, vous trouverez. Il veut dire aux apôtres, vous dépendez de la parole que je dis. Vous dépendez de la parole que je dis. Vivre, c'est dépendre de la parole de celui qui nous a donné la vie, Jésus. On n'existe pas par nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui sommes nés par notre volonté. Ce n'est pas nous parce qu'on a fait quelques études qui avons décidé de naître. Ce n'est pas nous parce qu'on a quelque argent qui avons décidé de naître. On est de quelqu'un d'autre. Et tout au bout de la chaîne, c'est Dieu qui nous fait naître et qui nous fera mourir pour nous reprendre dans sa vie, là-haut. Du commencement à la fin de la vie, nous dépendons de la parole de Jésus. Dès le sein de notre mère, dit un psaume, je m'appuie sur toi. Je n'étais pas conscient. J'allais pas très bien. Ma mère allait très mal quand je suis né. Elle a failli mourir, et moi aussi. Mais je m'appuie sur toi. C'est pour moi qui le dis, c'est le psaume. Je m'appuie sur toi. Notre histoire donc commence avec une parole de Dieu. Au commencement, Dieu parle et la vie peut commencer. On existe, on est là, on travaille, on achète, on mange des poires, des pommes, on se couche, on dort, on se réveille. Mais il y a une autre vie supérieure qui commence en écoutant la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa avec sa parole un monde harmonieux, fort, beau. C'est pareil pour nous. Ce qu'il a fait avec le cosmos, il le fait dans la vie de chacun. Il veut créer de la beauté, de l'harmonie dans notre vie. Mais pour ça, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut l'accueillir. Il faut lui faire l'hospitalité. Il faut accueillir cette parole du Christ. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tout commence avec une écoute de la parole. Savez-vous que lorsque nous serons dans l'au-delà, que nous serons dans le séjour des morts, que nous serons dans le paradis, ou peut-être sans Dieu, un jour le Christ parlera et nous entendrons sa voix. Lazare, dans son tombeau depuis 4 jours, a entendu, mieux que vous m'entendez, la parole du Christ qui lui disait « Lazare, sors de là !» La vie vient d'une parole qu'on entend. Jetez votre filet du côté droit et vous trouverez. Ils entendent bien. Ce n'est pas une parole cassante. Jésus ne leur a pas dit « Alors, bande de fainéants, incapables, vous n'avez pas vu le poisson ? Qu'est-ce qui vous prend ?» Jésus ne méprise personne. Même si nous commettons des erreurs, si nous allons dans des mauvais chemins, il n'a pas de mépris pour les peines du misérable, dit le psaume. Ils entendent une parole qui n'est pas cassante, qui ne brise pas le roseau froissé. Parfois, nous sommes des roseaux. Nous sommes comme des roseaux, un peu froissés, non ? Vous n'êtes pas froissés ? Par les déceptions, les paroles un peu agressives qu'on vous a données cette semaine, des mauvaises choses que vous avez apprises, pas très réjouissantes. On est froissé. Mais Jésus, lui, il continue pas de casser. Si vous êtes froissé, il ne dira pas, puisque celui-là il est froissé, je vais continuer de le casser. Quand j'étais jeune, un jour, il y a eu un accident de voiture devant la maison. C'était l'époque où il y avait 16 000 morts par an sur les routes. Dans les années, début des années 70, 16 000 tués tous les ans. Ça a beaucoup changé. Et devant la maison, camion, voiture, cycliste, paf ! Des blessés sur la route. Ça fait un choc dont on se souvient toujours. Puis là, il y avait un homme qui avait les jambes complètement cassées. Puis un passant s'est arrêté, il a dit, « Oh ben, il est fichu. Il a cassé le roseau, là. Il est fichu. Ben, » Non, mes amis, on l'a réparé. Il marche toujours. Donc voyez-vous, le Seigneur, devant le roseau froissé, il ne dit pas, bon, il est fichu, il a mal tourné, il vaut mieux le mettre de côté. Il nous prend et il nous conduit plus loin. Amen. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Parfois, notre vie, elle fume. On a l'impression qu'on est tout au bord de s'éteindre. Autrefois, mon père faisait un grand sapin à Noël. Et une chose que je ne referai jamais, que vous ne faites jamais chez vous, je pense, il mettait dans le sapin des bougies, des vraies bougies. Merci au Seigneur, on n'a jamais eu le feu chez nous. Le sapin, les bougies fumées, on n'était même pas là parfois. On se demande comment on a fait. Quand la bougie commençait à fumer, ça voulait dire, bon, allez, c'est fini, elle est presque éteinte. Mais le Seigneur, il ne souffle pas dessus en disant, là, il est presque éteint, il est presque fini, il n'a plus de souffle, il n'a plus de vie, on va l'éteindre. Non, le Seigneur, il a une voix qui attire, qui réconforte, qui donne du courage en disant « Quelqu'un s'intéresse à moi. Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» C'est beau, hein ? C'est la parole d'un créateur de vie. C'est la parole d'un créateur de bonheur. C'est la parole d'un sauveteur vis-à-vis des naufragés. C'est une parole douce. C'est la parole d'un père. Enfant, c'est beau, hein ? Il n'a pas dit « Bande de proparien. » Enfant. Enfant, n'avez-vous rien à manger ? C'est drôle qu'il demande à manger, comme si Dieu avait besoin de notre pauvre poisson. Est-ce que Dieu mange du poisson ? Répondez-moi. Oui, il en mange du poisson. Jésus a mangé du poisson ressuscité. Je ne sais pas de quoi il est fait, ce Jésus qui est dans le ciel et que j'aime et que je sers. De comment il est, ce Jésus, pour être ressuscité dans un corps céleste et puis il mange du poisson et du miel. Comme si le Seigneur avait besoin de nous. Avez-vous du poisson à manger ? Regardez comme le Seigneur s'intéresse à nos soucis. à notre pain quotidien, à notre poisson, problème de la pêche. Oh, quel souvenir j'ai de la pêche. Oh, je ne veux pas vous en parler parce que peut-être qu'il y a des pêcheurs parmi nous, des pêcheurs, je veux dire, de poissons. Quand mon père me disait, allez, on va à la pêche. Oh, la corvée. Oui. J'étais plein de vitalité, j'avais des jambes pour courir. Il fallait que je reste toute l'après-midi avec une ligne qui ne rapportait jamais rien. C'était terrible, la pêche. C'était la corvée du dimanche. Seigneur s'intéresse à notre poisson. N'avez-vous rien à manger ? S'intéresse aux petites choses de la vie, chagrin, les soucis, des questions qu'on se pose, qu'on ne devrait jamais se poser. Parfois, je me suis dit, au début de ma conversion, je me suis posé la question souvent, et même dans mon enfance, quand je lisais l'Évangile, je me disais, le ressuscité aujourd'hui, Jésus de Nazareth, est-ce qu'il est le même qu'au temps des Évangiles ? Parce que je lisais l'Évangile, oh, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Et je me suis dit, mais est-ce que Jésus, maintenant qu'il est reparti au ciel, sur les nuées du ciel, il est là-haut, mais est-ce qu'il est toujours le même ? Ou est-ce que c'est devenu quelqu'un d'autre qui ne nous connaît pas, qui a fini sa carrière et qui est à la retraite, et puis qui ne prend plus soin de ses anciens amis ? Est-ce que c'est toujours le Jésus qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien partout ? Vous avez écouté les paroles du ressuscité dans l'Évangile, qui voit une femme qui s'imagine que Jésus a été volé par le jardinier, vous savez, l'imagination. Femme, pourquoi pleures-tu ? Il dit pas, mais t'es pas un peu folle quand même, non ? Est-ce que le jardinier pourrait me prendre comme ça ? Femme, pourquoi pleures-tu ? Respecte même un petit peu l'égarement par le chagrin, et respecte tout. M'aimes-tu, dit-il à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu ? Écoutez les paroles du ressuscité pour vous montrer qu'il est très proche de tous nos sentiments, de toutes nos pensées. À Thomas qui disait, je veux mettre ma main dans son côté, je vous assure que jamais j'aurai le courage de mettre ma main dans le côté de Jésus. Et vous ? Sentir la main qui disparaît dans son abdomen, là, dans son thorax, je n'aurais pas le courage. J'ai parfois mis ma main dans des blessures à l'hôpital, mais jamais j'aurais le courage de mettre ma main dans le côté de Jésus. Mais il dit à Jésus, mets ta main dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Écoutez les paroles de Jésus, sans brutalité, sans jugement. De quoi parlez-vous en chemin pour que vous soyez tout triste ? Mais il ne pose que des questions, Jésus. Et je me suis même dit, mais toutes les questions qu'il pose, il connaît la réponse. Parce que quand il dit de quoi... C'est un petit garçon qui prie. Ou qui crie. Quand ils sont en chemin, une petite fille, quand ils sont en chemin, Jésus sait exactement de quoi il parle. Mais il pose quand même des questions parce qu'il veut avoir avec nous un dialogue. C'est important de parler. Il veut avoir avec nous un entretien. Il veut que dans la prière, on lui dise parfois des choses un peu parfois ridicules. Seigneur, j'ai peur de l'orage. Oh. Seigneur, j'ai peur d'avoir la grippe. Il veut qu'on lui parle de tout. De quoi discutez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes, les disciples d'Emmaüs ? Puis parfois, il a dit aussi, après la résurrection, pourquoi me persécutes-tu ? À qui il a dit ça ? Saul de Tarse. Il aurait pu dire, mon petit gars, tu vas filer ton chemin, tu fais du mal à mes enfants, je ne veux plus te voir. Mais Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu ? Quelle raison tu as pour me persécuter ? As-tu une bonne raison pour persécuter mes enfants ? Ce qui veut dire que Jésus, aujourd'hui, il vit à la base de notre vie. Il vit au niveau du cœur humain. Il vit dans nos vallées de fatigue, nos vallées parfois de disputes à la maison. Il vit dans nos maisons vides. Il vit tout près de nous. Il connaît les inquiétudes qu'on ne dit pas à son mari pour sa santé, pour son avenir, son passé. Il vit près de nous depuis le ventre de notre mère. Dans l'éducation que nous avons reçue de nos parents, plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise, le Seigneur n'était pas loin. Quand on a fait des décisions de choisir des bons chemins, il était là, il nous voyait. Quand on a pris des mauvais chemins, dans la tristesse, il nous voyait aussi. Quand on entrera à l'hôpital, peut-être pour mourir, il nous verra. Quand on sera abandonné parce que, comme disait quelqu'un, on ne peut pas toujours vivre avec les vieux. Un jour, on sera vieux et on ne pourra plus faire beaucoup de choses et on dépendra des autres qui ne nous donneront pas toujours. Le Seigneur sera avec nous dans la chambre d'hôpital. Amen. Alors les apôtres, je finis. Comment ça s'est passé la pêche ? Allez, tire Pierre, et toi Thomas ? Impossible de remonter le filet. Impossible de remonter. Il pesait des tonnes le filet. Ils n'ont pas réussi à remonter ce que le Seigneur leur avait mis dans leur panier, dans leur filet. Ça veut dire que vous ne pourrez pas tout comprendre. Les bontés de Dieu dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Nous, souvent, on se fait un Dieu à notre image. Au bout d'un moment, on se dit « Dieu ne peut plus !» Dieu ne peut plus. On se fait un Dieu comme nous, tout petit, tout rikiki. Dieu ne peut plus. David disait dans le psaume 139, « Si je compte les bienfaits de Dieu, si je compte les bontés de Dieu, elles sont plus nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. » Vous avez compté les grains de sable au bord de la mer ? Vous pouvez commencer, hein, c'est pas loin la mer d'ici. C'est-à-dire, vous pouvez y aller, le Seigneur nous dépassera toujours. L'apôtre saint Paul dit, nous connaissons en partie, c'est-à-dire un peu. Dieu fait toujours plus que ce que nous pensons et demandons. Vous savez combien il y a d'étoiles ? Vous voulez le chiffre ? Moi, je ne l'ai pas. Des milliards, de milliards, de milliards. Une fois, j'ai dit au Seigneur, tu sais, même si tu avais créé 3 étoiles, ça m'aurait suffi. Parce que j'aurais dit, bon, ben, Seigneur, d'accord, j'ai compris, tu sais faire vraiment des belles choses. 3 étoiles, c'est magnifique. Amen. Alléluia. Il en a créé à l'infini. Et avec nos télescopes formidables, on va jusqu'au fond de l'univers et on en trouve, et on en trouve, et on en trouve, et on en trouvera toujours. Dieu vit dans l'infini. Et, écoutez bien, c'est peut-être la chose qu'il faudra retenir avant de sortir d'ici. Sa bonté est infinie. Amen. Enfin, il n'a pas donné quand même 300 millions de poissons aux apôtres. Hein. Ils ont compté les poissons. J'ai bien aimé quand ils ont compté. 1, 2, 3, 4, 5, 153. Parfois, on fait un cadeau. Il m'est arrivé de faire un cadeau aux gens. Ils mettent le cadeau dans le buffet, ils ne l'ouvrent même pas. Ça vexe quand même, non ? Une fois, on avait offert vraiment du bon chocolat à quelqu'un, magnifique, c'était le temps de Noël, et bien l'année d'après, on a retrouvé le chocolat dans le paquet d'emballage. C'est triste, il n'était pas bon. Je trouve qu'il fallait compter les poissons, non ? 153, c'est quand même pas impossible à manger, ni à compter. On a un beau cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Il faut compter tout ce que Dieu nous donne. 153 poissons. Mais les plus beaux poissons, vous voulez que je vous dise où ils étaient ? Dans la barque. Il y en avait 7. Pierre, Thomas, Jacques, Jean, Nathanaël, c'est les plus beaux poissons. Vous savez que la Bible nous compare à du poisson ? Jésus nous dit que nous sommes comme des poissons dans un filet et qu'il va trier à la fin. Mais enfin, le plus important, ce n'est pas le poisson qu'il nous donne, c'est sa présence. Amen. C'est quand on mange avec quelqu'un qu'on aime, et bien le plus important, ce n'est pas ce qui est dans l'assiette, c'est la personne en face, non ? C'est le Seigneur qui compte. Et voyez-vous, quand ils ont mangé sur le bord de la plage, ils ont mangé du pain que Jésus avait préparé, qui fumait, là, du pain grillé avec du poisson dessus le matin. C'est formidable. On voit un Jésus tout proche de nous. Et voilà qu'ils ont mangé, et personne n'a osé lui dire « Mais qui es-tu ?» Parce qu'il savait que c'était Jésus, puis il n'osait pas lui demander. Eh bien, moi, je vais vous dire un secret. Osez lui demander souvent, « Qui es-tu, Seigneur ?» Parce que la vie, c'est connaître le Christ. Et on ne connaît pas le Christ sur une carte postale ou sur une photo, en disant, voilà, je vous envoie une photo de mes vacances, je suis allé en Chine, vous voyez, bon, merci, amen, c'est bon, c'est tout. Le Christ, il faut le découvrir de jour en jour. Il nous faudra des milliards d'années pour tout voir dans le Christ. C'est infini, c'est beau, c'est grand, c'est quelqu'un de, qui a des idées qui n'arrêtent jamais, qui crée des choses qui n'arrêtent jamais. Il a pour nous des préparations de fêtes, de festins, de repas, de joie, de banquets. Ça n'arrête jamais, ça n'arrêtera jamais. Connaître le Seigneur. Eh bien, je termine en vous disant, comme l'apôtre Pierre qui s'est jeté à l'eau, j'ai bien aimé, et vous, je vais vous dire, moi, je ne l'aurais pas fait. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas nager. Vous ne m'en voulez pas? Je suis un pasteur qui ne sait pas nager. Bon, j'ai jamais appris. Il s'est jeté à l'eau. Il a nagé vers le Seigneur. J'aimerais vous dire, avant de nous séparer, jetez-vous à l'eau, croyez en lui, écoutez-le, obéissez à ce qu'il vous dira, allez à lui, il vous aime, c'est magnifique. Amen, il vous aime. Jetez votre filet et vous trouverez. C'est beau, on va prier le Seigneur. Merci pour ta parole de ce jour. Merci pour ce miracle des apôtres, avec les apôtres, qui nous dit que tu es toujours avec nous, veillant sur les petites choses de la vie. Et à travers tout, tu nous montres que tu nous aimes. Rien n'est laissé au hasard. Tu es toujours là dans les petits soucis, les chagrins, les grands, les petits, les petites souffrances et les grandes souffrances, les petits passages et les grands passages de la mort. Tu es toujours avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Quel bonheur de te connaître, Seigneur. Que serions-nous sans toi? Où irions-nous sans toi? À quel hôte irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Merci pour ta parole de ce jour. Amen. Nous sommes devant le Seigneur, mes amis. Nous sommes au cœur de l'été encore, mais le soleil ne règle pas nos chagrins et nos souffrances, nos inquiétudes et notre passé. Le soleil, ce n'est pas Dieu. Rien n'est Dieu, sauf Dieu lui-même. On a besoin que Dieu, le Seigneur, pose sa main sur nous, non. On a besoin qu'il nous donne une parole bien à nous, pour nous, enfants. Jetez votre filet, hein, une parole bien à nous. Je vais prier pour ceux qui ont besoin parmi nous. Je vais prier celui qui a une bonté sans limite, une force sans limite. Je vais prier en vous imposant les mains si vous le souhaitez. Je vous invite à mettre votre confiance dans le Seigneur, vivant, ressuscité, véritable. Vous pouvez vous approcher. Je prie le Seigneur pour vous.